Je voudrais vous inviter à lire un texte avec moi. Juste pour redonner un peu de contexte, je suis un des responsables de l'église Grenoble-Est à Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble. Et j'ai aussi le privilège d'être en transition. J'ai dirigé pendant plusieurs années le foyer évangélique universitaire de Grenoble. Et je suis en transition en ce moment avec une équipe qui prend ma place de responsable là-bas. Et donc, voilà, je travaille pendant longtemps parmi les étudiants et depuis 3 ans maintenant, on a démarré cette implantation d'église à Saint-Martin-d'Hères. Et en ce moment, on a la chance de pouvoir méditer sur 1 Pierre. Et ce que je vous propose de faire avec moi, c'est de prendre votre Bible, si vous en avez une, et j'espère que vous allez pouvoir trouver 1 Pierre chapitre 4. On va lire les versets 12 à 19. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour vous avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais prier. Toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Oui, Seigneur, alors que nous ouvrons l'Écriture pour méditer ensemble cette exhortation de Pierre, je prie pour que nous puissions goûter à cette parole qui est l'Évangile annoncé maintenant. Je prie que nous puissions entendre ta voix et répondre, avoir un cœur qui est favorable à l'écoute de cette parole. Amen. Quelles sont vos attentes concernant la vie? Si vous regardez votre planning de ce début de semaine et ce qui s'est passé réellement, que remarquez-vous? Espériez-vous que tout irait selon vos plans? Un plan sans accroc, sans obstacle, sans difficulté? Moi oui. Au plus profond de moi, je veux que ma semaine se déroule favorablement. Je veux que les gens m'affirment et applaudissent mes choix. Je ne veux pas souffrir, je ne veux plus souffrir de ma maladie chronique, de mes problèmes physiques et de traîner ce corps qui vieillit. Quand je joue au basket avec mes enfants, je ne veux plus être essoufflé au bout de 15 minutes. Je ne veux plus avoir à gérer cette situation stressante au travail ou être inquiet par rapport à demain. Je ne veux pas souffrir. Les humains ont besoin de sens. En fait, on cherche en permanence à donner du sens, à trouver un but, à nos expériences. Et très tôt, on le voit avec les enfants qui demandent « Pourquoi si ? Pourquoi ça ?» Mais il n'y a pas que les enfants qui posent cette question. Nous aussi, nous nous demandons « Pourquoi ?» Pourquoi ? Et souvent, notre expérience du quotidien, elle devient beaucoup plus difficile quand on les analyse à travers la mauvaise lentille d'attente, des attentes qui ne sont pas bibliques et donc pas réalistes. Comme dans la chaleur d'une fournaise, nous demandons mais pourquoi ? Pourquoi ? Et à ce moment-là, on est même tenté de questionner Dieu. Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Si tu ne m'aimes pas dans cette situation, si tu ne viens pas à mon secours, est-ce que c'est moi qui ai un problème ? Est-ce que c'est ma foi qui défaille ? Non, j'ai pas changé. Mais il semble que ton attitude envers moi a changé ces derniers temps. Et si c'est votre expérience ce matin. Alors, j'espère que ce texte va vous aider, va nous aider à changer de perspective sur nos souffrances. En particulier concernant nos souffrances parce que nous sommes chrétiens. Viktor Frankl était un psychiatre autrichien qui a été déporté à Auschwitz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il le dit très bien. Après avoir observé l'attitude des prisonniers pendant le temps de sa déportation, voici ce qu'il a écrit, et je le cite. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la souffrance. C'est la manière de gérer la souffrance. C'est l'interprétation qu'on donne à la souffrance. Fin de citation. On a vraiment besoin, ce matin encore, d'ajuster nos attentes. Notre perspective sur nos souffrances est vraiment importante. Sans quoi, nous allons vraiment, vraiment souffrir. Comment interprétons-nous nos souffrances ? Alors, je viens avec une question qui est peut-être lourde. Et si vous n'êtes pas croyant ce matin ? Peut-être c'est la question aussi à laquelle vous pouvez réfléchir avec nous ce matin. Quelle est votre attente ? Quelle est votre attente ? Quel sens donnez-vous à vos souffrances ? Quel message envoyez-vous à votre cœur quand vous souffrez ? Parfois, on aimerait que Dieu soit présent, juste là, au milieu de nos souffrances, à nos côtés, pour nous parler. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Il est là, présent, à nos côtés, et il n'est pas silencieux. Dans le texte que nous venons de lire, j'ai relevé deux groupes d'impératifs, qui est une exhortation que Pierre adresse à des communautés qu'il appelle étrangers et voyageurs. Étrangers et voyageurs, non parce qu'ils ont changé de pays ou qu'ils sont en transition géographique, mais parce qu'ils sont devenus chrétiens, leur quotidien est resté le même et en même temps, tout était différent. Leur quotidien est resté le même, mais en même temps, du fait de leur foi en Jésus-Christ, tout était devenu différent à cause de leur foi. À présent, ils se posent des questions qu'ils ne se posaient pas avant. Est-ce que je devrais regarder ça ? Est-ce que je devrais m'associer, participer à cet événement ? Non. Est-ce que c'est grave maintenant si je rentre dans le tram et que je n'ai pas payé mon ticket ? En fait, ils commencent à se poser des questions qu'ils ne se posaient pas avant du fait de leur foi. Et s'ils n'avaient pas l'assurance qu'ils sont réellement nés de nouveau à travers la résurrection historique et physique de Jésus-Christ pour une espérance vivante, il y a longtemps qu'ils auraient tout abandonné. Les deux groupes d'impératifs sont là pour nous aider à réajuster nos attentes, à vivre en tant qu'étrangers et voyageurs, à mieux vivre nos souffrances. Premier groupe d'impératifs, ne soyons pas surpris, mais réjouissons-nous. 1 Pierre 4, 12, verset 12 à 14. 1 Pierre 4, 12 à 14. C'était ma première randonnée dans les forêts du Canada sauvage. Chloé et moi sortons de notre voiture pour nous diriger vers le début d'un sentier qui mène dans une forêt. À l'entrée au début du sentier, il y a ce grand panneau jaune, flashy, avec ce pictogramme et cette inscription: Beware of the bears. Beware of the bears. Attention aux ours. Et avec Chloé, on s'est regardé, on s'est retrouvé dans une situation qui était devenue étrange. C'était surprenant parce que en France, là où tu marches, là où tu vas, la seule chose dont on était conscient, c'était Beware of the crotte de chien. Mais maintenant, a tout été différent. C'est un nouveau normal. Et comme on appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière, Pierre nous demande d'appuyer sur un interrupteur intérieur. Au verset 12. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Le rejet, la bataille à l'intérieur de notre âme pour plaire à Dieu et faire le bien, les souffrances du fait de notre appartenance à Christ, de notre témoignage, c'est le nouveau normal. Et nous ne devrions pas être surpris. La fournaise qui sévit autour de nous est quoi d'après Pierre? Un test. On est éprouvé. Et ça c'est un rappel salutaire. L'épreuve, les souffrances, la fournaise, tout ça a pour objectif de nous quoi? De nous tester, de nous purifier, de rendre notre foi plus active, plus forte. Loin de nous chercher à nous faire défaillir, à nous faire perdre notre foi, Dieu utilise ces souffrances pour la faire grandir, pour nous attirer davantage à lui. Et je sais que peut-être pour la plupart d'entre vous, maintenant, dans cette assemblée, vous l'avez déjà expérimenté. Et sans vouloir minimiser les difficultés, les souffrances que vous avez expérimentées, peut-être vous avez déjà constaté qu'au fond, le passage dans la fournaise de la moquerie, des souffrances, de la moquerie, de la bataille pour prendre des bonnes décisions, même si elles étaient difficiles et vous ont coûté, a eu pour effet de vous rapprocher toujours plus de Dieu. Avons-nous appuyé sur l'interrupteur? Quelles sont nos attentes concernant la vie? Comment interprétons-nous nos souffrances? Pierre nous parle d'un nouveau normal. Ne soyez pas surpris, mais au contraire, réjouissez-vous. Et ça, c'est fou. C'est inconcevable. Comment la souffrance pourrait être une source de joie? Alors, à votre avis, pourquoi Pierre peut-il dire réjouissez-vous au milieu de ces souffrances? Eh bien, pas parce qu'elles sont rédemptrices, pas parce qu'elles permettent une expiation de nos fautes, c'est-à-dire un pardon, une couverture pour effacer nos fautes. Laissons ça de côté et regardons ce que dit ce texte. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. On se réjouit pourquoi? Parce qu'on est attaché par la foi à Jésus-Christ. On marche dans ses traces. Et être attaché par la foi à Christ, c'est l'assurance qu'on va connaître déjà une joie dans ce monde, et je vais y venir dans un instant, mais c'est aussi savoir qu'on va aller vers une joie toujours plus profonde, toujours plus impressionnante, toujours plus glorieuse. Pourquoi? Parce qu'elle nous conduit à la joie éternelle de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne croit pas vraiment. On n'a pas vraiment envie de vivre la vie que Pierre nous demande de vivre. En fait, si vous connaissez le contexte de 1 Pierre, il demande des choses complètement folles. Il nous parle de nous soumettre tout le temps aux autorités sous lesquelles nous sommes placés. Alors qu'en fait, en vrai, moi je préfère ma sacro-sainte liberté. Une soumission à des autorités, à un employeur, à un mari qui n'est peut-être pas chrétien. Et Pierre a dit cela. Et en fait, c'est la Bible. Alors on veut dire en tant que croyant, oui, je veux vivre ça. Mais est-ce qu'on n'a pas gardé un espace dans notre esprit de une réserve mentale, quelque chose qui nous dirait je veux bien vivre ça, mais jusqu'à un certain point. En fait, c'est une vie un peu folle, un peu dingue, à laquelle Pierre nous appelle. Et on sera prêt à vivre cette vie uniquement si on est sûr à 100% vers quoi elle mène. C'est uniquement si on a l'assurance, si on croit réellement, notamment 1 Pierre chapitre 3 verset 18, qu'on sera prêt à vivre cette vie qui à bien des égards paraît complètement folle. Regardez encore s'il vous plaît, si vous avez une Bible sous vos yeux, 1 Pierre chapitre 3 verset 18, un des versets qui explique la raison d'une vie folle. D'après Pierre, 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Alors, si je cite ce passage, c'est parce qu'il me semble qu'il y a une construction en parallèle dans notre texte qui lui est semblable. Observez s'il vous plaît encore 1 Pierre 4, 3, verset 13. 1 Pierre 4, 3, verset 13. Réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances. Et verset 14 maintenant. Heureux êtes-vous, car l'Esprit repose sur vous. De même que Christ a souffert une mort humaine, atroce, mais a été rendue à la vie éternelle par l'Esprit. De même, puisque nous participons aux souffrances, déjà maintenant, l'Esprit repose sur nous. Et c'est là notre joie, la joie présente, actuelle, au milieu des souffrances, l'assurance de la présence de l'Esprit dans notre vie. Parfois, on se pose la question, est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau pour cette espérance vivante? Est-ce que vous souhaitez une preuve ce matin que vous êtes chrétien? Est-ce que vous souffrez pour votre foi? Est-ce que vous souffrez de votre attachement à Christ? Alors là, si vous répondez oui à cette question, vous avez une preuve puissante que l'Esprit de Dieu repose sur vous, le même Esprit qui était sur Jésus et sur vous, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il est en vous, il repose sur vous. Vous êtes en train de faire une expérience puissante et c'est une preuve évidente que vous êtes né de nouveau et que vous êtes en chemin pour être conduit à Dieu. Et donc, on doit en tirer une conclusion qui, peut-être, comme moi, cette semaine, en réfléchissant à ce passage, peut-être nous remet un peu en question. Mais avant, j'aimerais donner deux points de contexte. Premier point de contexte, si nous ne souffrons pas comme trois quarts de nos frères et sœurs chrétiens de par leur monde, c'est probablement que nous sommes dans un contexte anormal. Parce que c'est ce qu'expérimentent en fait la plupart de nos frères et sœurs et ce qu'ils ont expérimenté au travers de l'histoire, une souffrance du fait de leur appartenance à Christ. Et si nous ne souffrons pas actuellement en France à cause de l'indifférence peut-être par rapport à la foi et ces choses-là, remercions Dieu. C'est une situation anormale. Deuxième point de contexte, sans vouloir minimiser les efforts qui ont été faits par nos frères et sœurs, peut-être dans l'assemblée de Sonra, il y a des gens qui fidèlement prêchent Christ, témoignent avec courage, sans voir énormément de fruits, sans vouloir minimiser cela. Il me semble ici que dans ce texte, Pierre est en train de nous dire que la souffrance liée à notre témoignage est quelque chose de normal et que nous devrions expérimenter régulièrement. Et j'ai été dérangé par cette pensée. Peut-être vous l'êtes actuellement aussi dérangé par cette pensée parce que je n'ai pas beaucoup souffert ces derniers temps. Et en discutant avec un ami au sujet de ce texte, il a fait référence à un livre qui s'appelle L'évangélisation honnête par un auteur britannique du nom de Rico Tice. Et dedans, il encourage les chrétiens à oser dépasser la ligne de la douleur. Dépasser la ligne de la douleur. Par là, il veut dire oser aller dans des discussions qui peuvent faire mal. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas beaucoup de difficultés à dire qu'on va à l'église, qu'on est chrétien, qu'on croit en Jésus. Mais Rico a dit que c'est parce que, en fait, on va peut-être pas assez loin. Et peut-être on est encouragé à aller un petit peu plus loin et à donner le vrai sens de ce que l'on croit réellement. Par exemple, si Jésus-Christ est réellement ressuscité, alors c'est lui qui sera le juge des morts et des vivants. Et si je ne me mets pas à genoux devant lui dans cette vie, alors c'est plus tard, dans la douleur et dans l'horreur, que je me mettrai en face de lui. Oser aller un tout petit peu plus loin dans nos discussions, c'est le challenge. Oser dépasser la ligne de la douleur. Acceptons le nouveau normal. Et réinterprétons notre souffrance comme une preuve que l'esprit repose bien sur nous. Ne soyons pas surpris, mais réjouissons-nous. Deuxième groupe d'impératifs. N'ayons pas honte de nos souffrances, mais confions-nous en Dieu. Ça, c'est les versets 15 à 19. Dans notre assemblée, nous faisons parfois des questions-réponses à la fin d'une prédication. Et l'autre dimanche, quelqu'un a posé cette question. C'est un petit peu en forme d'affirmation aussi. On est bien d'accord que si nos souffrances viennent d'une mauvaise attitude de notre part, ce n'est pas une preuve qu'on est attaché à Jésus-Christ. Ça, c'était son affirmation, question. Et là, je dis, on est bien d'accord. Et c'est ce que Pierre pense aussi au verset 15. Regardez encore ce texte, verset, s'il vous plaît. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. En revanche, si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Si l'exhortation principale est de ne pas avoir honte dans nos souffrances, il est clair que pour Pierre, il faut distinguer entre des souffrances qui sont liées à une mauvaise attitude de notre part et celles qui sont liées à notre foi. Si on souffre parce qu'on a commis un meurtre, ou voler, ou fait le mal, ce n'est pas la présence du Saint-Esprit dans nos vies. De même, si on s'est mêlé des affaires d'autrui, si on souffre à cause de cela, eh bien, ce n'est pas la présence du Saint-Esprit. Et j'ai cherché, en fait, à savoir qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, se mêler des affaires d'autrui. Et des commentaires qui ont étudié le contexte socio-historique détaille se mêler des affaires d'autrui en disant qu'il s'agit de manquer de tact dans nos conversations avec des gens au sujet de la foi ou de censurer le comportement d'un non-croyant en faisant appel à une loi divine à laquelle il ne croit pas ou tout simplement d'interférer de manière inappropriée dans la vie de quelqu'un en jouant au sauveur, par exemple. si on est en souffrance à cause de cela, on n'est pas, ce n'est pas une preuve de la présence de l'Esprit en nous. Alors oui, investissons-nous dans la vie de nos amis, écoutons-les, apprenons à les connaître, mais ne nous mêlons pas des affaires d'autrui. Le seul crime, entre guillemets, la seule punition autorisée est celle d'être chrétien. Et quand c'est le cas, quand quelqu'un nous moque, nous déteste parce que nous sommes chrétiens, à ce moment-là, n'ayons aucune honte. Réinterprétons notre souffrance, réajustons nos attentes, confions-nous en Dieu en continuant à faire le bien. Ce temps d'épreuve de notre foi, c'est comme un jugement pour éprouver, purifier. Alors, c'est un peu difficile comme langage, mais je crois que c'est vraiment ce que veut dire le verset 17. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. En fait, un tout petit peu plus haut, Pierre va parler de cette période de notre existence, 21e siècle, comme la fin. La fin de toute chose est proche. Et dans le langage de Pierre, je crois que cela veut dire que nous sommes dans la dernière phase du plan de Dieu, du processus de rédemption de Dieu. Et dans ce contexte, Dieu juge, exerce des actes de jugement. Mais pour les chrétiens, ces jugements ne sont pas là pour les condamner. Car nous le savons, il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, comme dit Romains chapitre 8, verset 1. Donc ces actes de jugement sont là pour nous purifier, nous éprouver. Ces intentions envers nous sont bonnes. Ils nous désirent voir franchir la ligne d'arrivée. Ils préfèrent, dans un monde déchu qui ne croit plus en lui, que nous souffrions pour un peu de temps, mais que nous soyons sauvés avec peine, dans la sueur et les larmes, plutôt que de nous voir, ses bien-aimés, souffrir éternellement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on présume tous quelque part que Dieu sait ce qu'il fait quand nous allons bien et que tout roule. Mais on a aussi besoin d'entendre ce matin que c'est également le cas quand notre voiture tombe en panne à un moment où en fait on doit se rendre vite à un rendez-vous, ou quand ton enfant est malade et que tu dois rester à la maison alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression en ce moment au travail. Ou plus spécifiquement dans le contexte de 1 Pierre, quand tu es ou quand tu sens que tu es menacé, tu peux perdre une amitié à cause de ta foi. Peut-être un membre de ta famille ou d'être saqué au travail à cause de tes convictions. À ce moment, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que vous vous dites? Quel message sommes-nous en train d'envoyer à notre cœur? Pierre nous encourage à envoyer ce message au milieu des souffrances, en particulier celles liées à notre foi. Réinterprétons ces souffrances. Ne soyons pas surpris, mais réjouissons-nous. N'ayons pas honte, mais confions-nous en Dieu en continuant à faire le bien. Quelles sont réellement nos attentes concernant la vie? Est-ce le confort, la sécurité, une vie sans stress, une vie « don't worry, be happy » ou est-ce que nous avons accepté le nouveau normal? Quel message traverse notre esprit quand nous souffrons? Quel message envoyons-nous à notre cœur quand nous souffrons? Est-ce un « tu as certainement un problème avec Dieu, tu as péché et Dieu est en colère, il est en train d'agir contre toi » ou est-ce un « oh mais Dieu ne m'aime pas vraiment. En fait, je ne peux plus accepter ce Dieu-là. » Eh bien, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile nous dit encore ce matin puisque Christ a souffert pour nos péchés une fois pour toutes. Nous ne souffrons pas et nous souffrirons jamais pour nos péchés. Et puisqu'il est mort pour moi, afin que je vive, il est digne que je meure pour lui, afin de vivre. Nos souffrances ne sont pas un signe que notre foi est défaillante. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile, fatigant, stressant. Mais nous avons l'assurance qu'au milieu de cette souffrance, nous sommes bien à lui. Il nous aime et il ne nous lâchera jamais. Il ne lâchera jamais notre main qui est dans la sienne. J'aimerais prier pour terminer ce temps ensemble. Seigneur, cette exhortation, elle vient avec une question qui est brûlante, qui est peut-être lourde dans nos cœurs en ce moment, car il est vrai, nous souffrons. Seigneur, je prie que par ta grâce, tu nous permettes de réinterpréter nos souffrances, en particulier celles qui sont liées du fait de notre attachement à notre foi, puisque nous participons à tes souffrances. Alors nous avons l'assurance que nous allons connaître aussi la gloire qui est réservée à ton Fils de toute éternité et à tous ses bien-aimés. Et je prie que nous puissions être encouragés, stimulés par cette pensée. Amen.